Lorient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Au Maroc, l'emprunt au théâtre étranger reste lié à des personnalités qui se sont illustrées dans des pratiques particulières de la traduction ou de l'adaptation, comme Ahmad Tayeb Al-Hadj, André Voisin ou Asma Houri. Dans un livre extrêmement documenté, riche en informations inédites et fort d'une fine analyse de l'évolution de cette pratique interculturelle, l'universitaire Omar Fertat nous propose un vaste panoramique de l'évolution du théâtre au Maroc, de ses emprunts à la tragédie grecque comme au théâtre de Molière et de son évolution vers la création pure, un nouveau répertoire adapté à son public. Le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche. Bonjour Omar Fertat.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous enseignez le théâtre et le cinéma arabe au département des études arabes à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous dirigez également la revue Horizon Théâtre et vous publiez aux presses universitaires de Bordeaux le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger. Alors c'est un ouvrage qui prolonge votre recherche pour votre thèse de doctorat, car au cours de cette recherche, vous vous êtes aperçu que vous ne pouviez pas parler du théâtre au Maroc sans évoquer d'abord l'adaptation de textes étrangers, notamment européens, c'est cela ?
Oui, c'est exactement cela. Effectivement, quand je faisais mes recherches, en fait, la question de l'adaptation, la traduction, ça peut paraître paradoxal dans la mesure où au Maroc, tout le monde parle de l'importance et souligne l'importance de cette pratique dans le théâtre marocain. Mais néanmoins, il n'y a aucune recherche sérieuse sur la question. Et moi, quand je faisais en fait mon mémoire de DEA à l'époque, c'est-à-dire j'ai consacré un mémoire au théâtre marocain d'expression française. Et donc, je travaillais avec des dramaturges qui, bien sûr, qui ont écrit en français, mais en même temps, qui ont fait des adaptations. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, de l'importance de cette pratique, puisque pratiquement tous les dramaturges m'incitaient à aller voir vraiment leur création, leur adaptation. D'abord, ils insistaient beaucoup. Et en voulant aller voir ces adaptations, c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pratiquement rien. Ni corpus, ni études, quelques articles, comme il faut le dire, par-ci, par-là. Mais il y avait une grande difficulté, vraiment, pour avoir accès à des sources et pouvoir vraiment connaître ce monde. Et c'est de là d'où m'est venue l'idée, donc, de consacrer une étude à cette problématique, à cette question.
Alors, la question de la théâtralité dans le monde arabe, elle se pose très tôt. Vous remontez au philosophe arabo-andalou Averroès, qui a du mal à trouver les mots pour traduire la pensée d'Aristote en la matière. Le théâtre est-il antinomique de la pensée arabe ?
Oui. Alors, déjà, voilà. Comme vous l'avez dit, déjà, j'ai commencé mon livre avec ce chapitre que j'ai intitulé « La fausse quête d'Averroès ». Et je reviens sur Averroès. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand on parle du théâtre arabe, le point de départ, c'est toujours Averroès et la poétique d'Aristote. Alors, ce qu'il faut savoir, et je le dis, c'est que Averroès n'a jamais traduit la poétique d'Aristote. Contrairement à ce qu'on dit, et souvent les gens croient ça. Non, il n'a pas traduit, il a commenté la poétique d'Aristote. Donc, la traduction, c'est-à-dire l'équivalent, puisque Aristote, c'est ce qu'on lui reproche, c'est que au lieu de trouver des équivalences au terme comédie et tragédie, lui, il a utilisé panégyrique et satire. Ce sont des mots qui relèvent de la poésie, du chant de la poésie. Et donc, lui, il n'a pas, en fait, la traduction existait. C'est Abou Bachr ibn Metta, donc un Syriac qui a déjà mis ces mots. Et donc, lui, il a repris tout simplement ces mots. Et bien sûr, ce qui a fait, donc je souligne ce paradoxe, c'est que ce qui a popularisé cette idée que Averroès, il a raté un petit peu ce chemin, où il a raté voilà le chemin du théâtre pour le faire découvrir à un grand public arabe, eh ben c'est, à mon sens, c'est la nouvelle, bien sûr, la quête d'Averroès de Borges, qui est une fiction, il faut pas l'oublier, qui est une fiction. Et donc, cette histoire qui est publiée dans son recueil de nouvelles L'Aleph, donc, a vraiment eu un écho considérable, mais je crois pas que cela peut nous laisser dire que la civilisation, comme certains l'ont dit, la civilisation arabo-musulmane de manière générale, n'est pas réceptive ou ne peut pas être théâtrale, si on veut dire. Puisque à côté de ça, Averroès, donc si on reprend ne serait-ce que l'époque donc de l'Andalousie pendant laquelle vivait Averroès, ben, il y avait des manifestations spectaculaires et c'était même, on va dire, l'âge d'or par exemple du théâtre d'ombre. Hein, on a des traces, des écrits de philosophes et des soufis qui ont parlé de cette forme. Donc il y avait de l'art, des arts spectaculaires qui existaient. C'était pas dans la littérature arabe, mais en dehors de cette littérature.
Oui, vous évoquez au passage l'écrivain José Luis Borges.
Oui.
Pourtant, le théâtre se développe largement sur la rive orientale de la Méditerranée, Égypte, Liban, Syrie, sans doute la double influence grecque et ottomane. De quand date l'émergence du théâtre, cette fois au Maroc?
Le berceau du théâtre, c'est le Liban. On sait que la date de 1847, c'est la date de la première représentation théâtrale donnée par Maroun al-Naqash, qui s'intitulait Al-Bakhil, l'avare, inspiré de la fameuse pièce avare de Molière. Donc le Maroc, c'est un peu plus tardivement, c'est-à-dire qu'à partir de 1927, donc, suite à la visite des troupes orientales, notamment des troupes égyptiennes et des fois des troupes égyptiennes avec des éléments, quelques comédiens tunisiens qui vont venir au Maroc, et c'est comme ça que les Marocains donc vont découvrir le théâtre grâce à ce qu'on appelle les troupes orientales, et par mimétisme ils vont créer là, il y en a qui datent alors le début du théâtre marocain à Fès, il y en a à Tanger, c'est la même époque.
Avec quels matériaux littéraires?
Voilà, c'est là où intervient l'histoire, la question de l'adaptation. Ben, grâce à l'adaptation, c'est-à-dire la première pièce de théâtre qui va être jouée par les Marocains, donc en tout cas celle la plus connue, c'est Saladin, Salah ad-Din Ayyubi, libérateur de Jérusalem avec toute cette tradition, tout cet imaginaire un petit peu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la pièce de Saladin telle qu'elle a été jouée, c'est une adaptation d'après le talisman de Walter Scott, qui était fait par Najib al-Haddad, qui était un écrivain libanais. Donc c'est par le filtre de l'adaptation et dès le départ que le théâtre marocain est né. Si on veut dire.
Donc, le théâtre marocain, au départ, s'appuie essentiellement sur des textes occidentaux, on va dire.
Alors, essentiellement, peut-être pas essentiellement, en tout cas, les premiers textes, ils ont commencé par ça, mais quand même, il y a quelques tentatives de créer des pièces originales en arabe classique, de Mohamed al-Khoury, etc., qui, avec un caractère plus réformiste, un petit peu. Donc, il y avait les deux en même temps. Mais c'est l'étape d'après où on va voir l'émergence avec force donc de la pratique de l'adaptation.
Mais alors justement, avec des troupes qui venaient de l'Orient, notamment Égypte et Liban, pourquoi ne pas avoir incorporé des textes venus de la Méditerranée orientale?
C'est ça la question. C'est-à-dire, quand on voit les premières troupes qui sont venues avec quoi? Ils sont venus avec Shakespeare, Roméo et Juliette, ils sont venus avec Le médecin malgré lui, ils sont revenus avec Saladin, ils sont venus avec les pièces de Victor Hugo. Vraiment, le répertoire était composé, on va dire, essentiellement de pièces adaptées d'après un répertoire occidental. Rares sont les pièces vraiment qui étaient créées par des auteurs égyptiens. Il y en avait quelques-unes, avec Ahmed Chaouri par exemple, etc. Mais étaient rares. C'est pour ça que par mimétisme, on a pris quand même ces mêmes pièces.
Donc c'était de l'adaptation, mais surtout pas de la traduction.
Alors, voilà, là on a la question de l'adaptation à la traduction. Parce que l'adaptation est forcément une traduction. L'adaptation qui était le plus pratiquée au Maroc, ce qu'on appelle la marocanisation. C'est-à-dire tout simplement, on va changer les noms des personnages au lieu qu'ils aient des noms, même égyptiens, comme il a été déjà fait européen, on va donner des noms marocains, les lieux sont être au Maroc, les coutumes, on va essayer d'adapter aussi toute l'atmosphère un petit peu, on va la rendre plus marocaine, voilà.
Donc le fil conducteur, c'est le texte initial, et ensuite tout l'enrobage, si je puis dire, c'est l'adaptation.
Exactement.
Et les troupes sont-elles des troupes amateurs? Y a-t-il un réseau de formation de comédiens et de metteurs en scène?
Non. Donc, si on parle des pionniers du début des années 20, non, pas du tout. C'est vraiment des amateurs et surtout, donc, on retient le nom des anciens élèves du collège, donc collège à Fès. Donc, c'est eux vraiment qui. Pourquoi? Parce que, en fait, les historiens racontent que quand ces troupes égyptiennes sont arrivées, ou troupes orientales, pas qu'égyptiennes, sont arrivées, eh ben, ces jeunes les ont aidés, en fait. Et il y en a qui disent même qu'ils ont participé à certaines, avec des petits rôles, à certaines pièces. Donc, c'est ces jeunes-là qui vont prendre, donc, ils vont se lancer dans le domaine de la création théâtrale, mais ils sont des amateurs, Il n'y a pas d'infrastructure à l'époque au Maroc, il n'y a pas d'école de théâtre. Donc, vraiment, c'était un apprentissage sur le tas, si on ose dire.
Et l'auditoire, comment reçoit-il ces troupes amateurs?
Alors, il paraît que la réception était très très bonne, parce que l'auditoire avait soif de ce genre de spectacle, d'autant plus que le spectacle, bon, même si des fois était fait en arabe classique, ce qui n'était pas accessible à tout le public, mais le fait d'entendre la langue arabe, on est, il faut pas l'oublier, sous protectorat français quand même. Donc tout ce qui, valorise un petit peu cette identité arabo-musulmane, d'ailleurs les thèmes, comme on a dit, c'est Saladin, on a tout, des personnalités historiques arabes, etc. Donc c'est vraiment, plaisait beaucoup au public, et même des fois, alors c'est là où le problème va se poser, c'est-à-dire que le théâtre va servir, les nationalistes vont vite fait repérer cela et vont l'utiliser pour la propagande nationaliste, à tel point que certaines pièces, comme la pièce donc Tartuffe, va être interdite par l'administration protectorale au Maroc.
Vous écoutez Orion Hebdo sur RFI et nous sommes en compagnie de l'enseignant et homme de théâtre Omar Fertat pour son livre « Le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger » publié aux éditions universitaires de Bordeaux. Alors nous le disions il y a un instant, Omar Fertat, l'adaptation est finalement un enjeu politique, voire social.
Oui, voilà, la question s'est posée dès le début, donc voilà, l'adaptation peut quelquefois, donc si on prend le cas de Tartuffe qui était adapté par Mehdine Mnei, donc c'est que l'administration protectorale a vu dedans une critique envers, en fait, ce qu'on appelait au Maroc les chefs de Zaouia, qui étaient des confréries religieuses, qui... Il y avait certaines collaborations, on va dire, et donc ils ont mal pris ou ils ont vu, voilà, qu'il fallait éviter cela. C'est pour ça qu'ils ont interdit donc ce genre d'adaptation. Et puis la question, va se poser de nouveau, notamment donc il y a toute la période, bien sûr, peut-être qu'on en parlera, d'André Voisin et de la troupe du théâtre marocain où l'adaptation va être pratiquée, mais un certain type d'adaptation, pas n'importe quelle adaptation. Et après l'indépendance, on va avoir la même troupe qui va proposer certaines adaptations, comme celle de UNESCO. Par exemple, Rhinocéros, et celle-là, elle va être interdite par les pouvoirs en place parce que, voilà, qui était dérangeante. Donc, vraiment, il y avait un enjeu autour de la pratique de l'adaptation.
Alors, dans votre ouvrage, vous mettez en exergue deux personnalités fortes du théâtre marocain, Ahmed Dayeb Al-Hadj et Tayeb Sadiki. Du premier, vous dites que c'est le Molière marocain. Pourquoi ?
Alors oui, le Molière marocain. Alors il faut savoir que ça vraiment c'est une constante dans le théâtre arabe. Chaque pays arabe a son Molière. Hein. Voilà, il y a l'Égypte a son Molière égyptien et le Maroc n'a pas échappé à la règle.
Oui. Molière c'est vraiment une référence ?
Oui, oui, oui. Incontestablement, c'est l'auteur le plus joué dans le monde arabe. J'ai même écrit un article, j'ai intitulé « Molière, un auteur arabe hein, ». Il y en a qui parlent en s'amusant de Sidi Molière. Donc effectivement, Molière, il a eu un tel succès dans les pays arabes. D'ailleurs, on a dit, la naissance du théâtre arabe, c'est l'Avare qui est inspiré de Molière. Molière va être présent, mais jusqu'aujourd'hui, hein, depuis le départ. Et pourquoi Tayeb El-Hadj? Parce que Tayeb El-Hadj, en fait, il s'est un peu spécialisé dans l'adaptation des pièces de Molière. Il a adapté énormément de pièces de Molière, à tel point qu'il était vraiment influencé par Molière, par la démarche de Molière, par l'esprit de Molière, dont même ses créations originales. C'est pour ça qu'on le surnomme le Molière marocain.
Et Tayeb Sadiki, vous dites de lui que c'est le maître expérimentateur. C'est en quelque sorte un auteur ouvrier?
Alors, on peut dire ça, parce que surtout qu'il a commencé donc sa première troupe, ça s'appelait le théâtre travailliste. Alors, non, l'expérimentateur, c'est par rapport à l'expérimentation théâtrale, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que Tayeb Sadiki, si on reste que dans le domaine de l'adaptation, c'est lui qui est allé vraiment sur des territoires un peu inédits. Par exemple, Tayeb Sadiki, c'est lui le premier au Maroc qui va adapter les pièces de Beckett et de UNESCO. En attendant Godot, qu'il a intitulé En attendant Mabrouk, et Amédée, comment s'en débarrasser, qu'il a intitulé Momo Bokhorsa. Voilà, il voulait vraiment tester de nouvelles formes théâtrales, que ce soit occidentales ou arabes, et cette expérimentation, il va la prolonger au-delà du travail de l'adaptation, puisqu'il va créer, en s'inspirant du patrimoine, c'est ce qu'on appelle l'un des pionniers du théâtre du patrimoine, ce théâtre, ce courant de théâtre arabe qui va s'inspirer du patrimoine, en vraiment proposant de nouvelles formes inédites, hein, vraiment dans le monde arabe. C'est pour ça que ces pièces ont eu un très grand succès, non pas seulement au Maroc, mais sur le plan arabe. Et donc, en s'inspirant des formes patrimoniales, des formes spectaculaires arabes, le fond aussi littéraire, culturel, etc. D'où vraiment ce caractère d'expérimentation qui va, il va le garder jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin.
Justement, comment passe-t-on de l'adaptation à l'écriture proprement dit, de la transplantation de textes étrangers à la création d'une nouvelle dramaturgie?
Oui, je dirais que c'est naturel. C'est-à-dire, il y a Hassan Mniri, qui est un grand chercheur, donc je cite, marocain, qui a consacré pas mal d'écrits au théâtre. Il parle de cette période-là, il dit la période d'élaboration. C'est-à-dire que la période de l'adaptation, c'est la période pendant laquelle les dramaturges marocains se sont essayés à un nouveau genre. En fait, ils apprenaient le métier, si on veut dire. Parce qu'il n'y avait pas de répertoire, il n'y avait pas d'histoire, mais il n'y avait pas de répertoire surtout, il n'y a pas de modèle théâtre. C'était les premiers. Donc, ils vont bien sûr prendre modèle ailleurs et par le biais, bien sûr, l'influence française est très présente via, bien sûr, André Voisin. Et donc, ce formateur qui est venu de France et qui leur a appris ce que c'est que le théâtre. Et donc, c'est tout naturellement qu'un moment, par exemple, il dit, j'ai fait le tour des formes occidentales. Et maintenant, il faut que je trouve un théâtre qui correspond à notre société. Donc, c'était naturel qu'ils aient cherché ailleurs. Et peut-être qu'ils sont arrivés à une période de maturité aussi. Ils se sentaient prêts à écrire, voilà, à créer leurs propres œuvres originales.
Justement, est-ce que la période du protectorat français et aussi la venue d'André Voisin, est-ce que cela a eu un rôle pour le développement du théâtre au Maroc, en tout cas d'une certaine forme de théâtre ?
Essentiel, un rôle très très important, et personne ne peut le nier. André Voisin, c'est une personnalité qui a joué un rôle vraiment crucial dans l'émergence du théâtre marocain moderne, on va dire. C'est-à-dire que tous les pionniers qui ont officié jusqu'à il n'y a pas longtemps, vous parlez de Taïb El-Alej, Taïb Sadr, sont des élèves d'André Voisin. Et aujourd'hui encore, il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il a formé toute une génération de théâtre à laquelle il a inculqué les principes, on va dire, professionnels du théâtre tel qu'il est pratiqué en France ou en Europe. Mais pas que ça, c'est ça. Moi, j'insiste beaucoup sur ce point. L'importance d'André Voisin, c'est qu'André Voisin, il est venu et il a encouragé ses étudiants à pratiquer un théâtre, non pas en français, mais en arabe. Et donc, et ça, c'était vraiment quelque chose. Et André Voisin, il fut l'un des premiers à promouvoir un théâtre populaire. Il les a incités à se pencher sur leur propre patrimoine, même s'ils ont travaillé sur l'adaptation, par exemple. Voilà, c'est très symbolique. Quand la pièce, la troupe du théâtre marocain que dirigeait André Voisin, donc, et d'autres personnalités marocaines aussi, comme Abd Samad Kenfaoui, etc. Donc, quand ils sont venus en 1956, en France, parce que c'était un événement, la première fois qu'une troupe, alors je dirais pas une troupe arabe, je suis pas sûr, mais peut-être, mais en tout cas en 56, au Festival de Paris qui va devenir par la suite le Festival des Théâtres des Nations, ils vont jouer deux pièces, ils vont jouer les Fourberies de Scapin, donc Fourberies de Juha qui est une adaptation, mais Ash-Shattab, les Balayeurs qui était une création originale. Donc il y avait les deux. Et oui, André Voisin joue un rôle très, très important.
Et y a-t-il aujourd'hui une nouvelle génération du théâtre marocain, plus créative, plus professionnelle? Et en quelle langue s'exprime-t-elle?
Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de théâtre, ce que certains comme Abdel Wahed Ouzri dans son livre Structure et tendance appelle la génération du théâtre. Il appelait de ses voeux la venue de cette génération. On peut dire qu'on est face à une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, bien sûr, a bénéficié d'une formation professionnelle grâce à la création de l'ISADAC, l'Institut supérieur d'art dramatique d'animation culturelle en 1986. Donc cette institution va jouer un rôle très important dans notamment, elle va former en fait tous ceux qu'on a aujourd'hui, qui occupent la scène théâtrale aujourd'hui, et avec un certain succès, je veux dire, c'est-à-dire un succès qui dépasse même les frontières marocaines, puisque ces deux dernières années, par exemple, ce sont deux dramaturges marocains qui ont obtenu le Grand Prix du théâtre arabe, l'une des plus prestigieuses manifestations donc arabes, organisées par la Fédération arabe, et donc successivement, c'est-à-dire, voilà, ils étaient sélectionnés parmi les 10 meilleurs spectacles dans le monde arabe, et ils ont réussi à obtenir ce prix, donc ce qui est vraiment un signe de cette vitalité de cette nouvelle génération très, alors, on peut dire qui pratique vraiment un théâtre moderne contemporain, avec différentes sensibilités. La langue, vous m'avez posé la question de la langue. L'arabe marocain est très présent quand même, hein, il faut le dire, l'arabe marocain est très présent. Mais il y a aussi quelquefois de l'arabe classique et il y a même du français aussi. Il y en a qui jouent. Moi, j'ai vu des pièces dernièrement, hein, Asmaouri par exemple, donc qui a obtenu le Grand Prix notamment du théâtre arabe. Il a joué dernièrement Omar m'a tué. C'est une pièce en français qui est inspirée des poèmes de Abdellah Zerirak, un autre donc poète marocain.
Merci Omar Fertat, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne.
Merci à vous.
Vous êtes également directeur de la revue Horizon Théâtre et pour en savoir plus sur le théâtre marocain, votre ouvrage, Le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, s'est publié aux presses universitaires de Bordeaux. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal.